maladies bactériologiques. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Chez Casanova, je ne suis pas consolé. Ma vie est un désert. J'ai eu le souffle coupé en vous voyant. Vous avez fait votre 1000e conquête dans la voiture. Je vous en prie, ne la refusez pas. Aujourd'hui, tout est possible. C'est vous qui l'avez dit. Faites alors que mon bonheur se réalise. Faites une folie. Emmenez-moi.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. C'est un plaisir singulier que d'aller rechercher derrière les caricatures où l'on enferme tel ou tel personnage notable du passé la complexité de sa figure et de son itinéraire. Ainsi en va-t-il, éminemment, de Casanova, qui s'apprête, si j'ose dire, à être notre homme ce matin. À peine son nom est-il prononcé, un nom dont on a fait un substantif dépréciatif, que l'on voit surgir une sorte d'obsédé sexuel, avide de collectionner les conquêtes féminines, un simple égoïste, prédateur, réduit dans sa vieillesse morose et frustrée à en restituer la chronique dans des mémoires sulfureux, le tout étant entouré de jugements moraux, abrupts et souvent anachroniques. Or, cet ouvrage majeur, qui n'est d'ailleurs accessible dans son intégralité que depuis fort peu de temps, conduit en réalité vers le portrait bien plus riche et bien plus intéressant d'un aventurier polymorphe. Un acteur qui, parmi les grands jeux de son temps, donne l'impression d'osciller sans cesse entre les exigences de la raison et les séductions de la déraison. Un portrait qui se dessine sur le fond du cosmopolitisme de l'Europe des Lumières, une Europe qu'à partir de Venise, il a parcourue en tous sens. Le théâtre tient une place centrale dans cette vie. Le théâtre, chargé non seulement de divertir et de tromper, mais aussi de mimer, en somme, la grande scène du monde. Michel Delon, professeur émérite de l'université Paris 4 Sorbonne, spécialiste notamment de la littérature libertine du XVIIIe siècle, est de ceux qui se sont attachés dans des ouvrages sagaces et subtils à nous donner à comprendre la profondeur du destin de Giacomo Casanova. Il n'en cache pas les noirceurs, mais il n'efface jamais, entre frasques et raffinements, ce qu'il peut comporter de réjouissant. Au fil des tribulations d'un homme qui, dans les cours royales comme dans les tavernes, dans les salons et les bordels, et même en prison, demeura toujours étonnamment libre. Et pour commencer, voici Casanova, tel surtout qu'on le connaît, tel qu'on le résume, Casanova avec une fermière et une calèche.
Le jour de l'Ascension, nous allâmes faire une visite à Madame Bergali, célèbre dans le Parnasse italien. Devant retourner à Pasean, la jolie fermière voulait se mettre dans la voiture à quatre places où son mari s'était déjà mis avec sa belle-sœur, tandis que j'étais tout seul dans une calèche à deux roues. J'ai fait du bruit me plaignant de cette méfiance, et la compagnie lui remontra qu'elle ne pouvait pas me faire cet affront. Pour lors, elle vint, et ayant dit au postillon que je voulais aller par la plus courte, il se sépara de toutes les autres voitures, prenant le chemin du bois de Cecchini. Le ciel était beau. Mais en moins d'une demi-heure, il s'éleva un orage de l'espèce de ceux qui s'élèvent en Italie. « Ah, mon Dieu !» dit la fermière, « nous allons essuyer un orage. » « Oui, et malgré que la calèche soit couverte, la pluie abîmera votre habit, j'en suis fâché. Mais je crains le tonnerre. Bouchez vos oreilles. Postillon, allons-nous mettre à couvert quelque part. » Et voilà les éclairs qui se succèdent, le tonnerre qui gronde et la pauvre femme qui tremble. Elle se jette sur moi, me serrant étroitement dans ses bras. Je m'incline pour ramasser le manteau qui était tombé à nos pieds, et en le ramassant, je prends ses jupes avec. Dans le moment qu'elle veut les rabaisser, une nouvelle foudre éclate et la frayeur l'empêche de se mouvoir. Voulant remettre le manteau sur elle, je me l'approche et elle tombe positivement sur moi qui rapidement la place à califourchon. Sa position ne pouvant être plus heureuse, je ne perds pas de temps. Je m'y adapte dans un instant en faisant semblant d'arranger ma montre dans la ceinture de mes culottes. Comprenant que si elle ne m'empêchait pas bien vite, elle ne pouvait plus se défendre, elle fait un effort, mais je lui dis que si elle ne fait pas semblant d'être évanouie, le postillon se tournerait et verrait tout. En disant ces paroles, je laisse qu'elle m'appelle impie tant qu'elle veut. Je la serre au croupion et je remporte la plus complète victoire que jamais habile gladiateur ait remportée. La pluie averse et le vent contre étant très fort, elle se voit réduite à me dire sérieusement que je la perdais d'honneur puisque le postillon devait la voir. Je le vois et il ne pense pas à se tourner, lui dis-je. Et quand même le manteau nous couvre entièrement tous les deux, soyez sages et tenez-vous comme évanouis, car en vérité je ne vous lâche pas. Elle se persuade en me demandant comment je pouvais défier la foudre avec une pareille scélératesse. Je lui réponds que la foudre était d'accord avec moi. Elle est tentée de croire que c'est vrai. Elle n'a presque plus peur. Et ayant vu et senti mon extase, elle me demande si j'avais fini. Je ris, lui disant que non, puisque je voulais son consentement jusqu'à la fin de l'orage.
Michel Delon, bonjour.
Bonjour.
Je vous vois en train de rire et je m'en félicite. Bon signe pour un point de départ. C'était un extrait d'une lecture de Guillaume Gallienne, vous l'avez sûrement reconnu, qui lisait cet extrait de l'histoire de ma vie de Casanova dans l'émission « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter le 9 janvier 2016. D'emblée, vous le trouvez là, votre cher Casanova, Michel Delon.
Mais oui, avec son culot, bien sûr qu'il nous choque. Mais pour bien apprécier ce texte, il faut se souvenir qu'on est avant Benjamin Franklin. La foudre, c'est Dieu.
Franklin qui a inventé le paratonnerre.
Oui, oui, voilà. Peu de temps, quelques décennies plus tard. Donc, la météorologie est totalement liée à la volonté divine, d'où la pauvre paysanne qui l'appelle impie. Et d'autre part, on est à une époque où, dans l'ensemble de l'Europe, souvent l'Italie est ressentie comme une terre volcanique, et avec une météorologie capricieuse et violente.
Naples, l'Etna,
voilà.
Le Vésuve.
Et ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, si on est choqué par la manière dont il se comporte, où il prétend arracher le consentement de la fermière, c'est que, pour lui, le problème, il est d'abord social et pas moral. C'est une fermière, donc il peut se conduire ainsi. Il ne se conduira jamais de la même manière avec une femme bien née. Il viole les soubrettes et il est infiniment respectueux, bien sûr, de toutes les autres femmes. Je trouve que c'est difficile à comprendre pour nous, mais son attitude est une attitude d'un homme d'Ancien Régime. Il est profondément lié à l'Ancien Régime.
Restons à l'origine de cette histoire de vie de Casanova. Il a vécu de 1725 à 1798, donc voilà. Il a connu la Révolution.
Ouais.
On ne comprend rien sans l'évocation de Venise.
Oui, alors pour nous, Venise aujourd'hui, c'est une destination touristique. Il faut bien voir que c'est peut-être le plus vieil état d'Europe. Hein, et ce n'est pas la cité de Venise, c'est tout un empire qui contrôle une grande partie de la Méditerranée. L'ancienne Yougoslavie, ce sont des terres qui relèvent de Venise et qui sont gérées par Venise. Et c'est une cité donc qui a longtemps contrôlé le commerce avec l'Orient. Et au XVIIIe siècle, lorsque l'on peut désormais faire le tour de l'Afrique et que les bateaux peuvent passer par le Cap, Venise a perdu une grande partie de son pouvoir économique.
Mais à l'époque, un habitant de Venise voyage presque par bateau interposé. Il est au centre d'une économie.
Oui, hein, c'est ils ont un arsenal militaire et toute une flotte commerciale hein, qui leur permet d'assurer la fortune de Venise.
Au quotidien, la ville est marquée par un contrôle politique assez très sévère du côté du système des doges et en même temps par une liberté des mœurs qui est rare en Europe.
Voilà.
C'est bien ça, ce contraste.
Oui. Il ne faut pas s'occuper de politique, mais sinon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et comme Venise, dès le XVIIIe siècle, va commencer à remplacer son pouvoir économique commercial par une utilisation du tourisme aristocratique, les Anglais, puis les autres noblesses européennes vont se former en Italie et passent à Venise. Et donc les Vénitiens jouent sur leur pouvoir culturel avec des grands musiciens, des grands peintres qui essaiment, des acteurs aussi qui essaiment dans toute l'Europe.
Deux des frères de Casanova sont d'ailleurs des peintres.
Importants à l'époque. Quand Giacomo, Jacques le nôtre, n'était pas très content parce que plusieurs fois, quand il dit son nom, on pense à Francesco Casanova, hein, qui est le grand peintre de bataille, qui va passer à Paris, qui va être applaudi par Diderot. Hein, Diderot aime les batailles de Francesco Casanova. Et l'autre est professeur d'histoire de l'art à l'Académie de Dresde.
Ses parents sont du côté du théâtre.
Voilà. La mère en particulier, Zanetta. Le père meurt jeune et Zanetta va faire une grande carrière d'actrice et de chanteuse. Et elle finit par se fixer comme son jeune fils à Dresden. Et toute sa vie, Casanova va être lié, où qu'il soit, à Venise, à Paris, au réseau des comédiens italiens à travers l'Europe.
Et ce grand pérégrin garde un patriotisme vénitien. Il sera d'ailleurs très chagrin à la fin de voir que Venise est privée de son autonomie à la fin des années 90.
Et heureusement, il n'a pas vu le pire, que Bonaparte, devenant Napoléon, va céder à l'Autriche pour plus d'un siècle.
Puisque Casanova meurt, je l'ai dit, en 98. Son enfance, sa jeunesse est marquée par cette ambiance d'ensemble. Il est d'ailleurs parfois assez vaurien. Il n'en a pas fait mystère, après coup.
Oui, sa mère fait carrière, donc part à Londres, puis ensuite en Allemagne. Et lui, il est élevé par sa grand-mère et il va faire des études relativement sérieuses. Dans l'université qui était Venise à l'époque n'avait pas d'université, c'était Padoue. Et donc il est envoyé là pour étudier l'un et l'autre droit, c'est-à-dire le droit civil et le droit canon, hein, qui lui permet ensuite, quand il s'oriente vers le clergé, d'avoir un acquis qui lui aurait permis peut-être, sans doute, de faire une carrière ecclésiastique.
Il faut dire qu'il a connu tous les métiers. Il a été financier, géologue, médecin et naturellement comédien.
Oui, aujourd'hui, chacun a une identité et est caractérisé par un métier. Hein, il faut bien imaginer que pour cet homme de théâtre de l'Ancien Régime, ce qu'il faudrait essentiellement, c'est être né, avoir un nom, avoir un titre. Et d'une certaine manière, il n'a pas de métier. Hein, il a des fonctions. Selon les possibilités, hein, il arrive dans... Vous avez évoqué, il est géologue, oui. Il arrive en Allemagne, un petit prince. Il n'a jamais réfléchi au problème des mines et de la richesse. C'est aussi le XVIIIe siècle, l'époque du grand développement, l'école des mines, des ponts et chaussées à Paris, etc. Il arrive et le prince et le premier ministre développent la question de la richesse de cette principauté. Et aussitôt, il fait un grand discours. On est ahuri par le culot de cet homme. Un grand discours où il explique comment il va développer les mines dans cet état. Et donc, il est embauché pour faire le tour de toutes les mines de la principauté et développer un plan, ce qu'il fait. Et donc, il est richement payé pour cette opération, alors qu'il n'avait, semble-t-il, jamais réfléchi à la question auparavant.
Il habite des rôles, en fait. Pour lui, le monde est une scène de spectacle.
Voilà, absolument. Absolument. Il est capable de jouer absolument tous les rôles. Médecin, hein, c'est comme ça que la première fois qu'il a un vrai protecteur, il voit un riche sénateur à Venise qui a une attaque.
Bragadin, oui.
Et contre l'avis des médecins, il va s'occuper de lui et le sauver. Donc, ce brave homme, qui va lui payer une pension jusqu'à la fin de sa propre vie, le considère comme ayant des dons. Il est possible que quand il est à Padoue, il ait suivi vaguement aussi des cours d'histoire de médecine.
D'anatomie, de dissection.
Oui. Voilà. Il a beaucoup lu tout le temps. Donc, il a un aplomb qui lui permet d'être sûr de lui dans à peu près toutes les disciplines.
Restons un instant sur ses premières années. Il y a aussi des tentations. Il s'agrège volontiers à des groupes de vauriens. Il en fait lui-même le récit, d'ailleurs. Et écoutez donc cette nouvelle extrait de l'histoire de ma vie. En l'occurrence, c'est Stanislas Nordet qui lit cet extrait, évoquant toutes les bêtises que Casanova faisait, jeune homme, avec plusieurs camarades à Venise. Il a environ 20 ans.
Je deviens un franc vaurien. 1746. Après une éducation faite pour m'acheminer à un état honorable et convenable à un jeune homme qui unissait à un bon fond de littérature les heureuses qualités de l'esprit, me voilà malgré cela, à l'âge de 20 ans, devenu vil suppôt d'un art sublime, dans lequel, si on admire l'homme qui excelle, on méprise à juste titre le médiocre, je me suis fait membre de l'orchestre d'un théâtre. En jouant du violon, je gagnais assez pour pouvoir m'entretenir sans avoir besoin de personne. En traitant tout de préjugés, j'ai pris en peu de temps toutes les habitudes de mes vils camarades. J'allais après le spectacle au cabaret avec eux, d'où nous ne sortions qu'ivres pour aller passer la nuit dans de mauvais lieux. Lorsque nous les trouvions occupés, nous obligions les occupants à décamper et nous frustions du pauvre salaire que la loi leur assigne les malheureuses qui s'étaient soumises à notre brutalité. Nous nous divertissions à délier des rivages des maisons particulières les gondoles qui, après, allaient toutes seules au gré du courant de l'eau d'un côté ou de l'autre du Grand Canal, nous faisant un sujet de joie des malédictions que les barcaroles devaient nous donner le matin, ne trouvant pas leur gondole là où ils les avaient attachées. Nous allions souvent réveiller des sages-femmes, les faisant habiller et sortir pour aller accoucher des femmes qui, à leur arrivée, les traitaient de folles. Par toutes les rues où nous passions, nous coupions impitoyablement toutes les cordes des sonnettes qui pendaient aux portes des maisons. Et lorsque, par hasard, nous trouvions une porte ouverte parce qu'on avait oublié de la fermer, nous montions les escaliers à tâtons et nous épouvantions aux portes de leur appartement tous les dormeurs. Après cela, nous partions vite, en laissant la porte ouverte comme nous l'avions trouvée.
J'emprunte cette lecture à l'émission Drôle de drame de Blandine Masson sur France Culture en novembre 2011. Michel Delon, ce vaurien, ce gamin, vous le voyez comment ?
Là, il a fait des études, il aurait pu faire une carrière religieuse, et voilà qu'il devient, comme il dit, vil suppôt d'un art sublime. J'imagine que l'art sublime, c'est la musique, hein, et il se comporte la pire manière, et d'ailleurs, dans les pages qui suivent, il raconte comment il viole une fille à plusieurs. C'est vraiment
la
noirceur du personnage. Et heureusement, par hasard, tout semble dans la vie de Casanova arriver par hasard. Et derrière le hasard, il y a la fortune. Il espère vaguement que tout a un sens.
Il en fait doctrine d'ailleurs dans son histoire de ma vie. J'ai été un fils du hasard.
Voilà.
C'est un hasard qu'il aime à contrôler, il faut saisir l'occasion.
On dit toujours que Casanova, c'est un séducteur. Mais il faut bien comprendre que la séduction, c'est pas simplement coucher avec une fille. Hein. La séduction, c'est séduire des puissants, on va l'évoquer. C'est séduire la fortune. Hein. C'est une espèce de relation, même pour lui, la religion, c'est pas un chrétien, c'est un catholique, au pire sens romain du terme.
Il n'a ni foi ni loi, en réalité.
Oui, mais on s'arrange. Hein. Il va voir le pape et il dit « Est-ce que vous pourriez me donner le droit de ne pas faire carême ?» Le pape le lui donne, dit-il. Et puis aussi le droit de lire tous les livres interdits. Et le pape me le donne. Il est dans cette relation toujours de séduction.
Vous montrez très bien dans le merveilleux petit livre que vous lui avez consacré dans la collection Découverte qu'au fond il cherche toujours l'équilibre entre le canevas et l'improvisation, entre l'habileté et le hasard.
Et donc un hasard essentiel dans son existence va être la rencontre avec Bragadin qu'on a évoqué. Et déjà il va changer de statut. Il était un vaurien, un vide suppôt d'un art sublime, et il va devenir un fils de famille. Il est comme adopté par un très riche vénitien qu'il considère comme son fils et qui va lui permettre pendant plusieurs années de vivre très confortablement et agréablement. Mais vous avez évoqué tout à l'heure le statut politique de Venise où l'on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on ne met pas en cause la religion et le pouvoir politique. Or, son libertinage est aussi un libertinage d'esprit, un libertinage moral et religieux. Il a des curiosités qui ne correspondent pas à ce qui est considéré comme la norme par le pouvoir vénitien et par l'Inquisition à Venise, qui est le pouvoir policier de la République.
D'où un épisode essentiel, chez cet homme de liberté se trouve 15 mois en prison, mais dans un deuxième temps, il en fait aussi un ressort pour sa notoriété et pour son succès.
Oui, alors donc il est arrêté et comme l'inquisition religieuse qu'on connaît, l'inquisition politique de Venise, vous arrête sans vous dire exactement pourquoi, ni jusqu'à quand vous serez en prison. Et ce qu'on appelle les plombs, c'est-à-dire au-dessus du palais ducal, les prisons étaient juste sous le toit, ce qui veut dire c'était terriblement chaud en été et terriblement froid en hiver. Et pour lui, c'est une espèce d'effondrement. Il faut imaginer un garçon en pleine santé qui tout d'un coup n'a plus aucune vie sociale, plus aucune vie sexuelle, et qui se retrouve là, et on ne lui offre que des livres religieux. C'est l'horreur absolue. Et il va rebondir en organisant, ça semble invraisemblable, mais personne ne s'était évadé des plombs, eh bien il est le premier à parvenir à passer sur le toit et à redescendre et à sortir. Et il est arrêté pendant le carnaval. Il faut dire que le carnaval durait une grande partie de l'année. Et il ressort avec une tenue de carnaval qui fait que ça semble invraisemblable. Et donc, on le laisse sortir de prison.
Il en fera un récit et un élément de séduction pendant des années en le racontant. Parce qu'au fond, c'est particulièrement insupportable pour lui d'être fixé quelque part, puisqu'il a, il a écrit un jour « La pensée de me fixer quelque part m'a toujours répugné, et une vie raisonnable m'a paru toujours contre nature. » La suite de son destin le confirme.
Voilà. Et de même, il promet le mariage à toutes les femmes. Il est impensable pour lui de se marier. Et donc, il s'enfuit de Venise, il traverse un coin de la Méditerranée, et il se retrouve dans la grande Europe, et désormais il va chercher dans une des grandes capitales du continent le prince qui va l'embaucher. Il va aller comme ça à Paris. Il admire follement Louis XV, mais il n'y arrive pas. Il va en Angleterre. Il n'arrive jamais à parler l'anglais. Le français, c'est sa seconde langue, sa troisième après le latin.
Il a appris auprès de Crébillon, excusez du peu, le père.
Père, oui. C'est-à-dire un membre de l'Académie française, un grand dramaturge, qui a été, semble-t-il, un maître sévère, mais efficace.
Il ne séduit pas seulement les femmes, il séduit aussi des protecteurs, il les cherche. Voilà. C'est aussi un courtisan.
Voilà. C'est un courtisan, c'est un homme d'ancien régime. Il ne pense que par religieusement par la grâce et politiquement par le soutien d'un grand. Hein, il va aller à Paris et il est tout yeux pour Louis XV. L'Angleterre ne lui correspond pas totalement. Il va à Berlin. Il rencontre, dit-il, Frédéric II. Il va à Saint-Pétersbourg. Il rencontre Catherine II. En Pologne aussi, le roi Poniatowski. Et quand il n'est pas dans une cour, on a évoqué l'idée de métier, et aussi le fait qu'il est né dans une famille de comédiens italiens, et donc il retrouve ses réflexes de comédien et d'entrepreneur de divertissement.
Ça lui vaut par exemple de jouer dans une comédie de Voltaire, il se fait critique, il se fait autant qu'il se fait dramaturge.
Voilà, et il traduit des pièces, il met au point des...
Il y a un point intéressant, ce sont ses relations avec l'opéra, et en particulier avec Da Ponte, l'admirable librettiste de Mozart, ce personnage étonnant qui est mort nonagénaire aux États-Unis en laissant des mémoires très intéressants. On a même découvert dans les papiers de, c'est vous qui le racontez dans votre livre, on a trouvé dans les papiers de Casanova deux ou trois feuillets qui donneraient l'impression qu'il aurait collaboré avec le livret de Don Giovanni.
Oui, on a une variante d'un air de Don Giovanni. Da Ponte est en effet aussi un Vénitien et un aventurier qui ressemble beaucoup à Casanova. Et donc, on sait aussi que Casanova va assister à la première à Prague de Don Giovanni. Donc, il est assez séduisant d'imaginer qu'il a soufflé quelques éléments. Mais en même temps, Casanova n'est pas Don Giovanni.
Alors là, j'aimerais qu'on s'y attarde un instant, parce que la comparaison entre Don Juan et Casanova est souvent faite, et vous montrez bien dans vos écrits, Michel Delon, qu'elle est controuvée, qu'elle est souvent malvenue, qu'en réalité, on peut à certains égards les opposer. Écoutez donc ce propos de Casanova lui-même, c'est un autre extrait de ses mémoires. « Le vice, dit-il, n'est pas synonyme de crime », une lecture de Georges Kless dans Les nouveaux chemins de la connaissance d'Adèle Vendrette sur France Culture en octobre 2012.
Vice n'est pas synonyme de crime, car on peut être vicieux sans être criminel. Tel je fus dans toute ma vie, et j'ose même dire que je fus souvent vertueux dans l'actualité du vice. Car il est vrai que tout vice doit être opposé à la vertu, mais il ne nuit pas à l'harmonie universelle. Mes vices n'ont jamais été qu'à ma charge, excepté les cas dans lesquels j'ai séduit. Mais la séduction ne me fut jamais caractéristique, car je n'ai jamais séduit que sans le savoir, étant séduit moi-même. Le séducteur de profession, qui en fait le projet, est un homme abominable, ennemi foncièrement de l'objet sur lequel il a jeté le dévolu. C'est un vrai criminel qui, s'il a les qualités requises à séduire, s'en rend indigne, en abusant pour faire une malheureuse.
On peut s'égarer, Michel Delon, parce qu'au fond, la liste des 1000 lettrés de Don Giovanni, on pourrait la retrouver dans le cas de Casanova. Il a connu des Parisiennes et des Suissesses, des Vénitiennes et des Romaines, des Hollandaises et des Espagnoles. Il a couché avec des courtisanes, avec des comédiennes, des ouvrières et des domestiques, des filles du ruisseau et de grandes dames, etc. Et pourtant, à juste titre, me semble-t-il, vous opposez Casanova. Vous en faites quasiment un anti-Don Juan. Parce que Don Juan s'impose face aux autorités, il établit son pouvoir sur ses conquêtes, et Casanova, au contraire, se présente comme un être de chair et de plaisir.
Casanova espère toujours le consentement de ses victimes. Il est toujours à la recherche d'une complicité sensuelle.
C'est ce propos sur le vice que nous venons d'entendre.
Oui, alors... J'imagine, pour un ancien promis à une carrière ecclésiastique, c'est incroyable. C'est de la casuistique pire que tout ce qu'on peut imaginer. Il se réfère à l'harmonie universelle. Finalement, il faut aussi des séducteurs et il faut un peu de vice. Hein, d'ailleurs, l'actualité du vice, c'est du vocabulaire philosophique de l'époque. Hein, l'actualité, c'est-à-dire là, quand on se conduit mal. Et alors que Don Juan, hein, c'est une figure de l'Espagne
sombre,
sombre, hein, noire, terrible. Casanova, il est dans les accords que nous évoquions tout à l'heure, les accommodements, les... Et finalement, du côté, il est toujours du côté du pardon. Oui, nous sommes faibles, mais finalement, on peut se mettre d'accord, on peut arriver à trouver une solution. Et c'est finalement peut-être chez cet homme qui, je crois, reste, il croit vaguement en Dieu, hein, il croit aux autorités, mais on peut toujours trouver un accommodement, alors que dans les différentes Don Giovanni, Don Juan, jusqu'à Mozart, hein, on a eu, oui, la figure noire et l'absence de perspective.
On imagine mal Casanova terminant en enfer à la fin d'un opéra, au fond. Vous dites qu'il est conquis alors que Don Juan conquiert et que Don Juan s'installe dans la durée et qu'au contraire Casanova vit dans la profondeur du présent. Cette opposition est importante, je crois, au cœur de notre conversation consacrée à Giacomo Casanova, Michel Delon.
Oui, et nous le retrouverons par la façon dont il va écrire l'histoire de sa vie. Il va essayer de rendre compte de la manière dont, à chaque fois qu'il séduit une femme, il est persuadé qu'il va l'épouser. Il pense vraiment qu'il
peut lui consacrer toute sa vie en réalité.
Oui, mais finalement, il ne le fera pas.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Il y a un autre volet de cette personnalité sur lequel je voudrais que nous attardions un instant, Michel Delon, c'est l'homme de science, ou en tout cas, oui. Celui qui prétend l'être, celui qui s'installe toujours entre les recherches de la connaissance en progrès, la rationalité dans ce XVIIIe siècle, et en même temps, cette poussée de déraison qui existe, cette passion pour les sciences occultes, ce côté Mesmer, le magnétisme, oui. Mesmer auquel vient d'être consacré un beau livre.
Oui, pour nous, ce sont des mondes totalement opposés. Hein. D'un côté... Newton, la science moderne, et de l'autre côté, Mesmer. Mais faut bien imaginer que le magnétisme animal a séduit beaucoup de médecins à la fin du XVIIIe siècle, et que la distinction entre la science et la non-science et l'occultisme, c'est nous qui, a posteriori, arrivons à bien les opposer.
Après tout, Diderot fait même lui-même dans l'encyclopédie un article sur la théosophie.
Oui,
hommage au pressentiment.
Il est passionné par cela, car finalement, le développement des sciences a donné un tel espoir dans les possibilités de l'être humain que des gens comme Diderot, voire Casanova, courent très vite devant la science. Donc, Casanova, toute sa vie, va collectionner les livres interdits, les mémoires occultes, et va en faire un moyen de tromper les gens. Là encore, il va séduire un certain nombre de crédules. Mais
la notion de secret, toujours, il est franc-maçon.
Oui, assez vite, hein, en passant à Lyon. Hein, il se fait initier, on peut remarquer que dans l'histoire de ma vie, il reste parfaitement conforme aux normes, c'est-à-dire que toutes les femmes qu'il a séduites, qui sont des femmes ayant un nom, il les désigne par une majuscule ou par un surnom ou un prénom, mais jamais il ne donnera leur leur nom véritable.
Alors pour les érudits dont vous êtes, quelle quête passionnante.
Bien sûr, on fait des petites notes en bas de page.
Vous trompez par là le désir de confidentialité, c'est très mal.
Et d'autre part, il ne donne aucun renseignement sur son initiation comme franc-maçon. Mais il semble bien que quand il arrive dans une cour, c'est en tant que maçon qu'il peut avoir des adresses et trouver de l'aide locale. Lorsqu'il est en Pologne, il est connu par un duel. Comment est-ce qu'un pauvre traîne-savate vénitien arrive à se battre en duel avec un des principaux personnages du royaume de Pologne? Sans doute, ils sont tous les deux maçons. Donc,
il en a fait le récit d'ailleurs abondamment, comme de Son Évasion, il l'a publié. Nous ne pouvons pas faire l'économie, Michel Delon, d'un épisode qui est resté fameux. Ce sont les relations de Casanova avec Madame Durfé, car on voit là comme un concentré de son talent, de son désir de s'enrichir autant que de dépenser, et de son utilisation d'un occultisme un peu débridé au service de ses passions. Rappelez-nous quelle était cette marquise, qui porte un nom d'ailleurs qui renvoie au précieux du XVIIe siècle.
Mais absolument.
Honoré Durfé, Astrée.
C'est une descendante de l'auteur d'Astrée, c'est-à-dire une très vieille famille aristocratique, très riche et sans enfants. Hein, donc la victime idéale pour Casanova, qui la connaît là aussi une fois de plus par hasard, par son neveu qui l'introduit, et il l'entend tout de suite dire son penchant pour l'occultisme. Donc il se précipite, il fait visiter l'atelier où, vous savez, hein, les ateliers de l'époque, hein, il y avait l'Athanor où l'on préparait le produit qui va permettre d'acquérir l'éternité, et il va s'informer lui-même pour essayer de fournir à la marquise d'Urfé tout ce qu'elle souhaite.
C'est-à-dire acquérir l'immortalité. Écoutons ce récit assez sidérant en vérité.
Je possédais, selon elle, non seulement la pierre philosophale, mais le colloque avec tous les esprits élémentaires. Elle me croyait par conséquent maître de bouleverser toute la terre, de faire le bonheur ou le malheur de la France. Ces extravagances venaient des révélations que son génie lui faisait pendant la nuit et que sa fantaisie exaltée lui faisait croire réelles. Elle me dit un jour que son génie l'avait convaincue qu'étant femme, je ne pouvais lui faire obtenir le colloque avec les génies, mais que je pouvais, moyennant une opération qui devait m'être connue, la faire passer en âme dans le corps d'un enfant mâle, né d'un accouplement philosophique d'un immortel avec une mortelle, ou d'un mortel avec un être femelle de nature divine. Si en vrai honnête homme je lui avais dit que toutes ces idées étaient absurdes, elle ne m'aurait pas cru. Ainsi, j'ai pris le parti de me laisser aller. Elle me dit plusieurs fois qu'elle était prête à donner tout ce qu'elle avait pour devenir homme et qu'elle savait que cela dépendait de moi. Nous passâmes 3 semaines à faire les préparatifs nécessaires à cette divine opération. Après ces préparatifs, je devais aller prendre dans un lieu qui devait m'être connu par l'inspiration des génies, une vierge, fille d'adepte, que je devais féconder d'un garçon par un moyen connu des seuls frères Rose-Croix. Ce fils devait naître vivant, Madame Durfé devait le recevoir dans ses bras à l'instant où il viendrait au monde et le garder 7 jours auprès d'elle dans son propre lit. Au bout de ces 7 jours, elle devait mourir, en tenant sa bouche collée à celle de l'enfant, qui par ce moyen recevrait son âme.
C'est toujours Guillaume Gallienne qui restituait ces passages des mémoires de Casanova. Alors Michel Delon, on le trouve là dans sa version à la limite de l'escroquerie.
Totalement escroc, mais il se justifie en disant « c'est elle qui voulait entendre cela ». Et il l'appelle la sublime folle, avec quelque chose presque de positif. Il admire la folie de cette femme.
Il finit par lui proposer d'échanger une correspondance avec la lune et de recevoir une réponse. D'ailleurs, et l'autre, la dame le croit.
Il avait quand même une capacité de persuasion.
Et d'inventivité. Il trouve toujours des idées qui vont dépasser ce que l'autre pouvait avoir en tête.
Avec cette sorte d'escroc prodigieux, on est tenté de faire un rapprochement avec deux autres personnages du temps, c'est-à-dire Saint-Germain et Cagliostro, l'un plus âgé que notre homme, que Casanova, et l'autre plus jeune.
Oui, Casanova semble exceptionnel, mais en fait, des aventuriers de ce type, il y en a beaucoup dans l'Europe du temps, et vous en avez cité deux. Et Casanova est un jugement très différent sur l'un et l'autre. Le comte de Saint-Germain est reçu à la cour. Le roi de France lui offre une partie de Chambord pour faire ses expériences alchimiques. Alors que le comte de Saint-Germain se prétend né plusieurs centaines d'années auparavant.
Ce n'est pas avéré.
Casanova ne met pas cela en cause. Alors que Cagliostro, qui est là encore un pauvre Italien qui va avoir une carrière jusqu'au moment où il est arrêté. Et lui, il finit dans un château de l'Inquisition pontificale en Italie.
Joseph Balsamo, cher Alexandre Dumas.
Exactement. Et Casanova rédige un pamphlet très méchant contre cet escroc de Cagliostro. Pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas grande différence entre le comte de Saint-Germain et Cagliostro, mais l'un a réussi, l'autre non. Et pour Casanova, la réussite, la fortune était derrière lui.
Un autre aspect qu'on peut évoquer, ce sont ses relations très différentes avec Voltaire et avec Rousseau, car c'est une donnée qui est assez révélatrice du caractère de Casanova. Il aime beaucoup Voltaire, il lui rend visite à Ferney, et il n'aime pas du tout Rousseau. Comment et pourquoi ?
Mais parce que c'est exactement comme le comte de Saint-Germain et Cagliostro. Voltaire est reconnu par l'Europe entière. Il a des terres à Ferney. Il s'est anobli par sa propriété. Alors que Rousseau, citoyen de Genève, a écrit des livres, mais il se présente comme pauvre, voulant être pauvre. Et ça, c'est insupportable pour Casanova. Et alors que les confessions de Rousseau sont sûrement un des modèles de l'histoire de ma vie, il va visiter Voltaire à Ferney, il passe du temps avec lui et ils font même une espèce de concours à qui lira mieux les poètes italiens.
Il faut rappeler à ce propos que la conversation est pour Casanova comme pour tous les hommes de son siècle. Il y a un très beau livre de Benedetta Craveri sur ce sujet. Par exemple, ils échangent, Voltaire à 71 ans et Casanova à 41, et ils échangent les propos suivants. « Voilà, lui dis-je, mémoire de Casanova, voilà, lui dis-je, le plus heureux moment de ma vie, je vois à la fin mon maître. Il y a 20 ans, monsieur, que je suis votre écolier. » Voltaire répond « Honorez-moi encore. » D'autres 20. Et après, promettez-moi de venir me porter mes gages. Casanova, je vous le promets, mais promettez-moi aussi de m'attendre. Voltaire, je vous en donne ma parole et je manquerai de vie plutôt que d'y manquer.
C'est une espèce de duel rhétorique.
Ça crépite.
Est extraordinaire.
Le prince de Ligne, vous avez cité, qui était un dernier grand ami, le prince Rose, ouais, qui était un grand ami de Casanova et qui l'a aidé dans la fin de sa vie, risque un parallèle entre Giacomo, usage du prénom, et Jean-Jacques. « J'aime mieux le Jacques qui n'est pas Jean. Car vous êtes gai, lui écrit-il, il est atrabilaire, vous êtes gourmand, il met de la vertu dans les légumes, vous avez cueilli 30 roses de virginité, il n'a cueilli que de la pervenche. » C'est un homme d'esprit, ce prince de Ligne. Il est d'ailleurs mort en valsant au moment du traité de Vienne. Magnifique.
Parfois, on se moque de ceux qui disent que la langue française arrive à cette fin du XVIIIe siècle, tout début XIXe, à une perfection. Hein, alors, on ne va pas prétendre qu'ensuite, c'est la décadence. Mais on comprend que Milan Kundera ait voulu écrire en français.
Comme Casanova.
Comme Casanova, ou Vivant de nom, Point de lendemain.
Il arrive que l'immigration soit positive, par conséquent.
Parfaitement. Et Casanova a réussi a, il devait avoir un gros accent, je pense, jusqu'à la fin de sa vie, mais a réussi à maîtriser, soit dans la conversation orale, soit par écrit, cette langue dans sa rapidité. Hein? Parfois, il fait des phrases extrêmement longues dans l'histoire de ma vie, un peu à la latine. Mais quand il parle, hein, il sait le sens du mot, du bon mot.
Alors venons-en pour finir, Michel Delon, pour terminer cette conversation, cet échange sur Casanova, l'innombrable Casanova. Terminons en évoquant le destin étonnant de ce manuscrit parmi d'autres écrits, Histoire de ma vie. En soi, c'est presque un roman.
Et oui, puisque Casanova, donc les dernières années de sa vie à Dux, raconte l'histoire de sa vie et n'arrive pas exactement jusqu'au bout. Hein, il s'arrête avant son retour à Venise, qu'il a follement espéré et que finalement sa cité ne correspondait pas à ce qu'il espérait. Et il veut ne raconter que les bons moments de son passé.
Dernière citation, dernier extrait des mémoires de ma vie de Casanova, si vous le voulez bien, Michel Delon, qui est encore lu par Guillaume Gallienne en janvier 2016 sur France Inter.
C'était dans cette ville-là que j'avais commencé à jouir grandement de la vie, et je m'étonnais qu'il y avait de cela presque 30 ans, temps immense, et que malgré cela je me trouvais encore plus jeune que vieux. Mais quelle différence quand je mesurais mon existence physique et morale de ce premier âge et que je la comparais à l'actuel. Je me trouvais tout à fait un autre, et tant je trouvais que j'étais parfaitement heureux alors, tant je devais convenir d'être devenu malheureux, car toute la belle perspective d'un plus heureux avenir ne se présentait plus à mon imagination. Je connaissais malgré moi, et je me sentais forcé de me l'avouer, que j'avais perdu tout mon temps, ce qui voulait dire que j'avais perdu ma vie. Les 20 ans que j'avais encore devant moi et sur lesquels il me semblait de pouvoir compter me paraissaient tristes. Ayant 47 ans, je savais que j'étais dans l'âge méprisé par la fortune, et c'était tout dire pour m'attrister, puisque sans la faveur de l'aveugle déesse, personne au monde ne peut être heureux. Travaillant alors pour pouvoir retourner libre dans ma patrie, il me paraissait de borner mes désirs à obtenir la grâce de retourner sur mes pas, de défaire ce que j'avais bien ou mal fait. C'est en descendant que l'homme qui a passé sa vie dans les plaisirs fait ses sombres réflexions, qui n'ont pas lieu dans l'état de la florissante jeunesse où il n'a besoin de rien prévoir, où le présent l'occupe tout entier et où un horizon toujours permanent et toujours couleur de rose lui rend la vie heureuse et entretient son esprit dans une si heureuse illusion qu'il rit du philosophe qui ose lui dire que derrière ce charmant horizon il y a la vieillesse, la misère, le repentir toujours tardif et la mort.
Michel Delon.
Ce sont parmi les dernières pages écrites par Casanova, qui meurt donc en 98 en laissant ses manuscrits, essentiellement celui de l'histoire de ma vie, à son neveu.
Racontez-nous l'histoire de ce manuscrit, elle est assez prodigieuse.
Oui, oui, la famille de Casanova va espérer en tirer un bon prix et les négociations vont traîner. Et finalement, c'est Brockhaus, un grand éditeur allemand, qui achète le manuscrit, le fait traduire en allemand, puis devant le succès de la version allemande qui avait entraîné une rétro-traduction française, un texte complètement faux, vous voyez, une traduction du texte de Casanova en allemand retraduit en français, donne le manuscrit à réécrire par un professeur de français en Allemagne, et la première édition de 1826 à 1838 de ce qui s'appelle les mémoires de Casanova à l'époque, c'est un texte non pas totalement faux, mais quand même assez profondément réécrit pour cacher tout ce qui pouvait choquer, c'est-à-dire le côté brutal de la sexualité. Donc, finalement, vous voyez, c'est un quart de siècle après la mort de Casanova qu'on a une première version sur laquelle on va vivre pendant plus d'un siècle. Ce n'est qu'en 1960 que la maison Brockhaus, qui a eu différents épisodes, on a sauvé les manuscrits de Casanova des bombardements en 45, de manière miraculeuse, la fortune, dirait Casanova. Et on a la première version du texte dans les années 60, mais en conservant le vieux découpage qui n'est pas le véritable. Et donc, on continue à rééditer un faux texte, et la première édition dans la bibliothèque de la Pléiade est un texte qui n'est pas le véritable œuvre de Casanova. Alors, heureusement, en 2010, la Bibliothèque nationale va acheter ses cahiers. Bruno Racine est arrivé à présenter ce texte écrit en français sans doute, mais le manuscrit n'avait jamais été à Paris, n'avait jamais été en France. Hein, il est écrit à Doux, puis dans les différentes résidences de Brockhaus, mais c'est vraiment le concentré de l'idée de l'Europe francophone du XVIIIe siècle. On a là l'idée du français comme n'étant pas la propriété de l'Hexagone, mais le français appartient à tous ceux qui le pratique aussi bien que Casanova. Bruno Racine a eu raison d'estimer que le manuscrit était à sa place à la Bibliothèque nationale.
Ça nous a valu d'ailleurs une très belle exposition à l'époque à la BNF.
Voilà. En rond autour du manuscrit. Et ce qui a permis aussitôt à la Pléiade de se rattraper en donnant le bon texte, et à Bouquin de faire également, parallèlement, une édition nouvelle, totalement conforme au manuscrit, qui d'autre part est en ligne, donc on peut voir l'écriture même de Casanova.
Ça nous conduit à la postérité de Casanova, de fait, et il faut pour finir que nous évoquions ce qu'on en a fait, comme on l'a jugé, à la fois dans la littérature et au cinéma. Nous parlions de Don Juan tout à l'heure. J'aime beaucoup ce poème d'Apollinaire qui oppose précisément Don Juan et Casanova. C'est une comédie parodique, Casanova. Apollinaire écrit dans ce poème: Don Juan était tragique et triste, ainsi qu'un chat huant, longue est la liste de celles qui moururent pour lui. Mais moi, je ne fais pas de victime, Casanova, je suis le plaisir et non l'ennui, je commets des péchés, non des crimes, je suis gai, tendre et charmant, je suis le meilleur des amants, car j'aime légèrement. C'est bien, non?
Apollinaire connaissait très bien le texte, parce que, à mon avis, je commets des péchés et non des crimes, c'est une allusion directe au passage de l'histoire de ma vie qu'on a lu tout à l'heure.
Alors, il y a eu d'autres auteurs qui s'en sont saisis.
Oui, alors, et là aussi, il faut pas être franco-français. Hein. Il faut bien voir que Casanova, c'est d'abord une figure de la Mittel Europa, de l'Europe centrale. Et donc, vous allez avoir de grandes œuvres, souvent, du théâtre, par Hofmannsthal, par Schnitzler, mais également par une Russe, comme Marina Tsvetaïa, ou par un magnifique roman qu'il faut lire de Sandor Maraï, Le Hongrois, où il y a la conversation de Bolzano. Et c'est Casanova qui s'est enfui des plombs et qui arrive, pour la première fois, il a passé la frontière de Venise et il est en territoire autrichien. C'est vraiment un très beau texte.
Et on peut terminer par le cinéma italien en disant, voilà, qu'il a été le martyr de Fellini, le malheureux Casanova, mais qu'il a été un peu mieux traité par
Comencini
et par
Torrescola.
Fellini en fait une espèce de pantin mécanique.
Oui.
Il le déteste.
Pour Fellini, Casanova, c'est le Latin lover qu'il est au sens du verbe haïr, qu'il est peut-être au fond de lui-même, alors qu'Torrescola imagine Casanova qui se serait évadé de Dux et Rétif de la Bretonne, se rencontrant sur la route de Varennes, où Louis XVI est en train de s'enfuir avec la reine et ses enfants.
Avec l'idée de demander à Marcello Mastroianni de jouer Casanova vieillissant.
Ça, c'est absolument extraordinaire, parce que on a comme ça Mastroianni, toutes les femmes continuent à se jeter à son cou, et il dit « Merci, je suis touché ». Mais vous savez, je n'ai plus l'âge de tout cela. C'est-à-dire, il joue sur le fait qu'il a été aussi le séducteur du cinéma italien et que Casanova ne doit jamais être confondu avec son mythe. Il donne conscience que le mythe a recouvert l'homme.
C'est une excellente conclusion. L'homme et le mythe, nous avons tâché de les séparer, sans oublier le lien forcément qui les relie dans le même temps. Merci beaucoup Michel Delon. J'ai fait fond pour préparer cette émission sur l'excellent, je le citais, l'excellent petit livre de la collection Découverte de Gallimard, Casanova, Histoire de sa vie. Vous y reproduisez notamment des manuscrits de l'histoire de ma vie. C'est extraordinaire, c'est très très lisible et il n'y a aucune rature pratiquement.
C'est une mise au propre. Sans doute il y avait d'autres manuscrits et nous avons dans l'histoire de ma vie deux passages dont on a deux versions.
On trouvera en ligne naturellement une liste de vos œuvres sur des thèmes voisins, mais je voudrais évoquer ici le principe de délicatesse, libertinage et mélancolie au XVIIIe siècle, paru chez Albin Michel en 2011. Ou encore le savoir-vivre libertin, antérieur, 2004 en pluriel chez Hachette. Et puis, vous êtes un grand spécialiste de Sade. Peut-être que c'est un peu reposant de prendre Casanova après Sade.
Absolument.
La 121e journée, tout récemment, parue chez Albin Michel en 2020. On pourrait également trouver le nom de plusieurs auteurs qui s'en sont occupés. L'historien Guy Chaussignan-Nogaret. Il y a eu aussi remarquable Chantal Thomas. Je citais Zweig, on pourrait en trouver d'autres. Vous disiez, Michel Delon, le mérite de la collection Bouquins, il est plus grand encore, puisque vient d'y paraître un recueil des essais de philosophie, de morale et de littérature de Casanova sous le beau titre d'Une plume indocile, sous la direction de Jean-Christophe Higalens, je crois que c'est un de vos étudiants
oui.
À l'origine, et maintenant un savant, et Éric Leborgne. C'est précieux, non ?
Ah, c'est un recueil extraordinaire où on va d'un essai sur la nouvelle langue française après la Révolution à un commentaire de Coup d'œil sur bel œil qui est l'essai du Prince de Ligne sur les jardins. Et on y trouve un éloge de l'irrégulier qui est, si on peut dire, la règle de vie de Casanova.
Et c'est le titre d'ailleurs d'un de vos articles, j'y ai été attentif, Michel Delon, L'Irrégulier. C'est un article paru dans la revue des Deux Mondes. J'aurais pu adopter cet intitulé pour cette émission, trop tard. Tout cela se retrouve en ligne naturellement sur le site de notre émission. Et vous y trouverez également les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter, podcaster cette émission. Je vous rappelle que nous sommes en ligne depuis 2011.
Mini mini chichi, mini mini chichi, mini mini chichi, mini mini chichi,
Casanova,
mini mini chichi,
Casanova,
mini mini chichi,
où es-tu,
mini mini chichi,
où es-tu,
mini chichi,
Casanova,
mini mini chichi,
Casanova,
mini mini chichi,
viens,
viens,
je sais que ton cœur chaque nuit, chaque jour meurt sans fin. Je sais que tu brises le nom des amours dans tes mains. Casanova,
Casanova,
où es-tu,
où es-tu,
Casanova,
Casanova,
viens,
viens.
Et tandis qu'en arrière-fond, Caterina Valente chante Casanova en 1955, j'ai le plaisir de vous rappeler que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Mathieu Leroy à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, Delphine Desbiens pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.
Casanova,
Casanova,
viens,
viens.
Casanova,
Casanova,
que fais-tu,
que fais-tu,
Casanova,
Casanova,
viens,
viens.
Je sais que ton cœur chaque nuit, chaque jour meurt sans fin. Je sais que tu brises le nom des amours dans tes mains. Casanova,
Casanova.
Ooh, I do, Casanova.